Rebonjour donc.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Le bilan de l'épidémie du coronavirus pourrait être bien plus important qu'annoncé au Royaume-Uni et dans des proportions très importantes. C'est ce qu'indique une nouvelle enquête statistique publiée ce matin, dont Éric Biegala nous détaille le contenu dans un instant. Le plan européen de relance présenté hier avec 500 milliards d'euros mobilisés devra-t-il faire l'objet d'un compromis ? Il est, quoi qu'il en soit, très discuté ce plan par quelques pays. Explication à suivre de Bertrand Galichet. En France, l'actualité politique avec la date du deuxième tour des élections municipales, toujours en discussion, on voit ça avec Pierre Neveu, et l'arrivée à l'Assemblée d'un neuvième groupe qui veut s'autonomiser de La République En Marche, notamment sur les questions écologiques. Précision de Stéphane Robert. Comment réellement quantifier la surmortalité due au coronavirus? On sait que dans de nombreux pays, depuis le début de l'épidémie, les statistiques officielles peinent à prendre en compte l'ensemble des cas de Covid-19. Et cela semble particulièrement vrai au Royaume-Uni, où ce matin, de nouvelles études ont indiqué que le bilan officiel de la pandémie pourrait devoir être relevé de près de 20 000 cas. Les explications d'Éric Biegala.
Près de 55 000 décès comptabilisés en plus en mars-avril 2020 par rapport à la moyenne des années précédentes. Ce sont les chiffres donnés ce matin par l'ONS, le Bureau britannique des statistiques. C'est 19 000 décès de plus que les 34 000 morts officiellement recensés comme victimes du coronavirus au Royaume-Uni durant la même période. Or, la surmortalité de mars-avril ne peut guère s'expliquer autrement que du fait de l'épidémie. Dans une analyse publiée en fin de semaine dernière, l'ONS donnait pourtant seulement la moitié de cette surmortalité comme étant causée par la Covid-19. Pour l'autre moitié des décès, les causes de la mort relevées sur les certificats de décès étaient la démence ou la maladie d'Alzheimer et aussi des causes mal définies, comme il arrive très souvent lorsque le certificat de décès est établi par un médecin connaissant mal ou pas du tout la personne décédée. C'est souvent le cas dans les décès intervenus en maison de retraite et surtout à domicile. À vrai dire, la Grande-Bretagne ne fait pas vraiment exception. Dans tous les pays où la pandémie a fait des ravages, il existe une claire différence entre le chiffre officiel des décès dus au coronavirus et la surmortalité observée durant la même période. Autour de 5000 décès surnuméraires et non comptabilisés comme Covid-19 en France, 6500 en Espagne, autour de 10 000 en Italie. Mais la Grande-Bretagne, avec plus de 15 000 décès en plus, est quand même largement en tête des pays européens.
Éric Biegala, le plan de relance européen à 500 milliards d'euros annoncé hier par Angela Merkel et Emmanuel Macron, toujours très discuté à Berlin, où la chancelière allemande doit faire face à de nombreuses interrogations, des libéraux notamment, mais aussi en Europe, où les pays tenant d'une plus grande rigueur budgétaire continuent à questionner cette initiative, les pays de l'Europe du Nord notamment. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir Benoît.
Le plan annoncé hier peut-il être mis en place en l'état ou bien devra-t-il faire l'objet d'un compromis ?
Eh bien, le débat sur le plan de relance de 500 milliards proposé hier par la France et l'Allemagne tourne désormais autour de ces questions cruciales, prêts ou subventions, qui doit payer, qui va rembourser, avec un début de réponse apporté aujourd'hui par le porte-parole de la Commission européenne qui parle d'équilibre, autrement dit, trouver un compromis entre les pays qui ne veulent consentir que des prêts et ceux qui accorderaient volontiers des dotations. Hier, la présidente de la Commission européenne avait qualifié de constructive la proposition franco-allemande, ce qui n'engage à rien. Il faut dire que Ursula von der Leyen doit elle-même présenter à la fin de ce mois son propre plan de relance économique qui ne devrait pas ressembler en tout point aux propositions franco-allemandes. Concilier le point de vue des fourmis et des cigales n'a rien d'évident dans ce contexte. Ainsi, la France, lourdement touchée par le coronavirus, pourrait elle-même prétendre à des subventions, comme l'Espagne ou l'Italie, qui espèrent beaucoup des dotations européennes. L'arbitrage entre les prêts à rembourser et l'argent versé sans contrepartie n'est pas la seule question. Si une enveloppe de 500 milliards d'euros est retenue, elle fera partie du budget de l'Europe pour la période 2021-2027. C'est ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel. Alors, à quel rythme pourra-t-elle être injectée, cette enveloppe, dans l'économie européenne ? Le sujet reste à trancher d'ici le prochain Conseil européen prévu les 18 et 19 juin.
Merci Bertrand Galichet. La Commission européenne apporte son soutien à l'Organisation mondiale de la santé après les menaces de Donald Trump, accusant l'OMS de manquement dans la gestion de la crise du coronavirus ou même d'être une marionnette de la Chine. Le président américain menace une nouvelle fois de mettre un terme à ses financements. Autre réaction, celle de Moscou, pour qui ces pressions américaines ont pour but de casser l'OMS. Par ailleurs, aujourd'hui, en réunion à distance, les pays membres de l'organisation ont donné leur accord formel par consensus pour la mise en place d'une évaluation indépendante de la réponse à la pandémie.
L'UFC Que Choisir attaque 20 compagnies aériennes dont Air France, Ryanair ou encore Lufthansa, des compagnies accusées par l'association de consommateurs de violer la législation européenne sur le transport aérien, Benoît.
Elle refuse trop souvent ces compagnies de rembourser les vols annulés en raison de l'épidémie de coronavirus, préférant la mise en place pour leurs clients d'avoir Hakim Kasmi.
Pour l'UFC Que Choisir, les passagers doivent avoir le choix entre un remboursement intégral de leur billet ou un avoir, ce que prévoit déjà le droit européen, d'autant que les sommes en jeu peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros dans certaines familles. Des familles qui devront au moins attendre un an pour être remboursées en cash, à condition que les compagnies d'ici là ne fassent pas faillite. Des conditions qu'assume Air France, la compagnie explique que malgré le prêt de 7 milliards d'euros de la part de l'État, actuellement elle n'a pas les moyens de rembourser ses passagers, ce que dénonce Alain Gazot, le président de l'UFC Que Choisir.
Air France, je ne crois pas qu'il soit menacé puisque l'État va donner 7 milliards d'euros. Donc c'est la double peine, il faut que les contribuables payent, il faudrait en plus que les consommateurs soient spoliés. La moindre des choses, c'est de respecter le droit de la consommation. Par ailleurs, si les compagnies veulent survivre, comme on dit, eh bien à ce moment-là, plutôt que d'être dans la violation du droit, qu'elles soient dans la séduction des clients.
Au-delà des passagers, les agences de voyage sont également impactées, car les compagnies aériennes refusent de leur rembourser les billets qui n'ont pas pu être utilisés par leurs clients. Jean-Pierre Masse, le président des entreprises du voyage.
Les agences de voyage émettent plus de la moitié des billets d'avion des compagnies aériennes en France. Ça représente à peu près 30 millions de billets d'avion par an. Et aujourd'hui, les compagnies détiennent plus de 500 millions d'euros qui auraient dû revenir aux agences de voyage et à leurs clients.
Selon IATA, l'Organisation internationale des compagnies aériennes, la crise de la Covid-19 devrait faire perdre aux compagnies cette année 252 milliards de dollars.
Hakim Kasmi, on a appris aujourd'hui que la compagnie aérienne britannique EasyJet, par ailleurs en difficulté en raison de la crise, s'est dit victime d'une cyberattaque très évoluée. Les données de 9 millions de clients d'EasyJet ont été violées, certaines concernant les données des cartes de crédit des passagers. Renault est parvenu à un accord avec les banques sur un prêt garanti par l'État, on l'apprend à l'instant, un prêt de 5 milliards d'euros qui doit aider Renault à traverser la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus. Ce prêt doit être présenté prochainement au conseil d'administration de Renault. En France, les élections municipales, les élections les plus longues dans les quelques 5000 villes ou communes où le premier tour le 15 mars n'a pas suffi à élire une équipe et un maire, une date de second tour pourrait se préciser avant les vacances. En tout cas, le conseil scientifique qui a rendu son rapport au Premier ministre hier ne s'y oppose pas. Bonsoir Pierre Neveu.
Bonsoir Benoît.
Le conseil ne s'y oppose pas. Vous avez lu l'avis du conseil scientifique et vous nous confirmez, Pierre, que les experts font preuve quand même d'une extrême prudence.
Et on ne peut pas dire que l'avis du conseil scientifique va simplifier la tâche du Premier ministre. Dans leur rapport, les experts rappellent que la situation sanitaire demeure incertaine et qu'elle le sera encore avant la date du scrutin s'il est fixé, par exemple, le 28 juin prochain. C'est pourquoi ils préconisent une clause de revoyure 15 jours avant la date retenue pour tenir compte de la situation épidémiologique du moment et soulignent qu'en cas de perspective négative, eh bien, une nouvelle interruption du processus électoral serait alors justifiée. Des scientifiques qui recommandent l'organisation d'une campagne électorale différente, sans rassemblement, sans porte-à-porte ni meeting, en raison des risques sanitaires, comme il rappelle également l'importance du port du masque le jour du vote et souligne l'utilité du vote par procuration pour les personnes à risque.
Mais d'ores et déjà, Pierre, on constate que ce rapport ne fait pas consensus, ni dans la majorité, ni dans l'opposition.
Et c'est l'homme qui parle à l'oreille d'Emmanuel Macron, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui se montre le plus réservé quant à l'organisation d'un second tour fin juin. Il juge non raisonnable la tenue de ce scrutin et se justifie. La démocratie, dit-il, ça n'est pas uniquement un vote, mais une campagne électorale avec des débats. On ne peut pas faire plus radical en la matière. Jean-Luc Mélenchon lui emboîte le pas. Pas de vote sans garantie sanitaire. La sécurité prime, affirme Gérard Collomb. L'UDI Jean-Christophe Lagarde a prévenu qu'un second tour fin juin dans un mois serait aberrant démocratiquement quand les Républicains, favorables à un deuxième tour de scrutin fin juin, annoncent refuser de participer à un débat avec vote au Parlement. Pas question pour eux de voter les yeux bandés un mois à l'avance sans connaître la situation sanitaire. On le voit, l'exécutif s'expose au risque de déplaire dans sa majorité comme dans l'opposition. Probablement aucune solution ne sera la bonne, reconnaît la vice-présidente de l'Association des maires de France. Voilà pourquoi Emmanuel Macron consulte en ce moment à l'Élysée, comme le fera demain Édouard Philippe. En fin de journée, le Premier ministre recevra les responsables politiques.
Merci Pierre Neveu. Le nouveau groupe parlementaire Écologie, Démocratie, Solidarité s'est officiellement présenté à la mi-journée à l'Assemblée nationale, composé de 17 députés, parmi lesquels Mathieu Orphelin, Delphine Bateau, Cédric Villani et Aurélien Taché. Ce groupe, qui fait perdre à La République En Marche la majorité absolue, entend bien peser. Ces 17 députés veulent profiter d'un moment de bascule historique lié à la crise du coronavirus. Sur le fond, ils se disent décidés à œuvrer au monde d'après, mais comment? Et surtout sur la forme, un nouveau groupe, pourquoi faire? Élément de réponse avec Stéphane Robert.
Ils s'imaginaient être un groupe rassemblant plusieurs dizaines de députés. Finalement, ils ne sont que 17, avec à leur tête l'ex-socialiste Paula Forteza.
Bonjour à tous. Nous sommes ici.
Ainsi que l'écologiste proche de Nicolas Hulot, Mathieu Orphelin.
Nous ne serons pas un groupe d'opposition. Nous serons un groupe positif, un groupe de propositions.
Ils se définissent comme des constructifs sans étiquette, mais plutôt de gauche, à l'image de ce que sont à droite les députés d'Agir. Et ils veulent promouvoir la transition énergétique ainsi que la mise en œuvre de politiques solidaires. De quelle manière, ça c'est encore un peu flou. L'ex-ministre socialiste de l'écologie Delphine Bateau a évoqué quelques mesures.
Ce groupe va être en fait la caisse de résonance à l'Assemblée nationale, des mobilisations de la jeunesse pour le climat, de la voix des scientifiques, de la voix des territoires.
Ils ambitionnent notamment de faire voter une loi qui garantisse le bien-être animal, ou encore veulent inscrire dans la Constitution le respect des limites de la planète. Tout ça paraît pour le moment assez peu concret et assez peu réaliste sur ce que peut espérer mettre en œuvre un groupe de 17 députés sur 577. On a dès lors du mal à voir le projet et on peut craindre que ce groupe, plutôt que l'expression d'une ambition collective, ne soit au bout du compte que la manifestation d'un amalgame d'ambitions individuelles.
Stéphane Robert.
Conséquence de la Covid dans les EHPAD de France, la douleur des familles perdant des proches est d'autant plus vive que depuis mi-mars, on le sait, aucune visite aux défunts n'est autorisée.
Benoît. Et le protocole mis en place en raison de cette crise sanitaire est toujours en vigueur aujourd'hui. Ce matin, le syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées a reconnu qu'une vingtaine de familles ont porté plainte en raison de cette absence de visite, de cette impossibilité. Or, la déléguée générale du CINERPA, Florence Arnaise-Momet, qui se dit ouverte au dialogue, estime aussi que les sociétés funéraires ne laissent que peu de marge de manœuvre aux EHPAD.
Les organismes funéraires ont imposé à l'Élysée, enfin à Matignon et l'Élysée, un protocole de mise en bière immédiate pour éviter les surcontaminations et éviter les contaminations de leur personnel. En nous disant, vous n'avez plus que 3 ou 4 heures pour mettre en bière. Donc, la seule chose qu'on pouvait proposer aux familles, c'était de voir son papa ou sa maman avec les yeux non fermés, la bouche non fermée, les soins non effectués. Vous savez, un décès, soit vous faites les soins et le corps est beau, et en tout cas est aussi beau que possible, soit vous ne faites pas les soins, et là, il y a tout qui se déploie. Non seulement les odeurs, le risque infectieux, enfin, je ne vous fais pas de dessin, mais ce qu'on nous a mis entre les mains mi-mars va créer chez les familles, chez les personnels, et j'insiste vraiment sur les personnels, parce qu'ils ont eu là des choses à faire extraordinairement dures, qui va les violenter encore longtemps. Donc, il va falloir du temps pour en sortir. Cette procédure est toujours à l'œuvre. Ils ont obtenu qu'elle soit encore maintenue, et elle a été renforcée, puisque depuis le début du mois de mai, non seulement les personnes Covid, certains, doivent être mis en bière immédiatement, mais en plus, les suspicions Covid doivent également être passées dans cette procédure, ce qui n'était pas le cas avant.
Des propos recueillis par Tarache Légal. Le CINERPA fait savoir qu'il travaille à une plateforme post-Covid pour mettre en place des médiations afin de répondre aux familles qui ont souffert de la situation. Retour à l'étranger, les habitants des quartiers populaires de Santiago du Chili sont de retour dans la rue pour protester contre le gouvernement. 7 mois tout juste après le début du mouvement social contre les inégalités dans le pays, de nombreux manifestants ont bravé le confinement hier pour dire qu'ils n'ont tout simplement plus de quoi manger. Reportage de Justine Fontaine.
Les habitants de la commune d'El Bosque, l'une des plus pauvres de la région de Santiago, ont manifesté toute la journée et toute la soirée d'hier, malgré l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes à cause de l'épidémie de coronavirus. Pendant que la police faisait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène contre ceux qui avaient mis le feu à des barricades au milieu de la rue, des voisins expliquaient leur colère aux médias locaux. Une mère de famille raconte que son mari ne touche plus qu'une petite partie de son salaire et qu'ils n'ont pas de quoi acheter du pain tous les jours. Un riverain précise « ce n'est pas contre le confinement que nous manifestons, mais à cause de l'absence de l'État », dit-il. Alors que les Chiliens organisent de plus en plus de soupes populaires ces dernières semaines, le président de droite, Sébastien Piñera, avait justement annoncé dimanche soir la distribution de paniers alimentaires et de produits de première nécessité, mais sans pouvoir indiquer quand ils seraient livrés aux Chiliens les plus vulnérables. Et quelques jours plus tôt, la majorité présidentielle se félicitait d'avoir tenu bon face à l'opposition au Parlement en refusant d'augmenter l'aide d'urgence aux familles les plus pauvres, fixée donc à seulement 65 000 pesos, environ 70 euros dans un pays où le coût de la vie est proche de celui de l'Espagne. Dans la soirée d'hier, des incidents ont été rapportés dans d'autres quartiers modestes de Santiago. Des bus incendiés et un concert de casseroles vides a résonné dans une grande partie de la capitale pour protester contre la réponse du gouvernement face à la crise sanitaire et sociale.
Le Chili qui déplore pour l'instant un peu plus de 500 morts à cause du coronavirus. Michel Bachelet a réagi aujourd'hui à l'arrestation de Félicien Kabuga samedi à Asnières-sur-Seine en France. La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est félicitée de la fin de cavale de celui qui est présenté comme un organisateur, un planificateur du génocide des Tutsis au Rwanda en 94. Félicien Kabuga a été présenté au parquet général de Paris pour étudier les conditions de sa remise aux mains de la justice internationale. Deux mots de météo, un temps estival demain avec des températures qui continuent à monter, toujours quelques averses sur le sud-est et sur la Corse, maximale comprise entre 24 et 29 degrés.